évoquer ce mois de mai, ce souvenir, esquisser un paysage mental, imaginer un chant choral, une mosaïque de textes, une polyphonie d'écritures qui se croisent, se répondent sans le savoir, et même empruntent quelques pas de côté, ici et ailleurs, tout autour. Tel fut mon carnet de route amical, la saisie des surprises, un tissage inattendu.
Mai 68, quelques pas tout autour, par Hélène Bleskin, deuxième émission.
Venez, écrivain et critique, qui prophétisez avec votre plume, et gardez les yeux ouverts. La chance ne reviendra pas. Ne parlez pas trop tôt, car la roue tourne toujours, et elle n'a pas encore dit qui était désigné. Le perdant de maintenant pourrait être le prochain gagnant, car les temps sont en train de changer.
Bob Dylan.
En mai 68, pour un moment, quand l'ordinaire n'existe plus, des hommes et des femmes qui d'ordinaire passent le temps de leur existence sans la vivre, se mettent à la vivre vraiment en artiste.
Jean-Paul Dolé.
Les nuits de Paris ce printemps sont sublimes. Une sorte de jardin des délices à la Jérôme Bosch. En mai, fais ce que voudra, conseiller Rabelais. Nous le prenons au mot. Un immense rêve collectif commence à se matérialiser. Le vieux théâtre de l'Odéon laisse la place à un forum permanent ouvert à toute la population.
Jean-Jacques Lebel.
Une ambiance étrange s'est installée dans beaucoup d'institutions en grève, devenues des lieux de contestation de tous ordres et des lieux de réflexion. Une vie ponctuée par les grandes manifestations et les heurts nombreux et violents avec les CRS. Une vie où toutes les activités habituelles d'une grande ville se sont arrêtées. Les murs sont devenus le support d'une transgression généralisée, d'un texte poétique sans fin, fait du collage d'affiches et de graffitis, prodiguant des vérités refoulées, des citations lumineuses, des insolences sublimes, des confidences intimes. Tout le monde s'y met. Des appels à la révolution ont même été lancés du haut des tabourets de quelques grands cabinets d'architectes.
Antoine Stinko.
En cette année terrible, délirante, de feu et de sang. Je venais d'avoir 21 ans, et comme tout le monde, j'avais la rage. 500 000 soldats américains s'enlisaient au Vietnam. Martin Luther King venait d'être assassiné. L'Amérique s'embrasait comme une traînée de poudre. Le monde entier semblait à la veille de l'apocalypse.
Paul Auster.
Je suis sur le trottoir du boulevard Saint-Michel, à l'angle de la rue Soufflot, à regarder les 300 ou 400 qui arrivent. Les 20 ou 30 du premier rang sont casqués, et tous ils portent un drapeau rouge. Et au milieu du premier rang, un très grand, toujours maigre et barbu, toujours dans son imperméable, a aussi un masque à gaz sur la poitrine. Je ne me rappelle plus, il me semble que nous nous saluons.
Jean Thibaudeau.
La rage était pour moi la seule réaction saine face au sort qui, en 1968, attendait ma génération. À peine sorti de l'université, j'allais être enrôlé dans un conflit qui me faisait horreur et auquel je refusais de prendre part. Mes seules perspectives d'avenir, la prison ou l'exil. Je n'étais pas un violent. Je me revois plutôt comme un jeune homme discret et studieux, s'appliquant à devenir écrivain, tout entier absorbé par les cours de littérature et de philosophie à Columbia, New York. J'avais bien manifesté quelquefois contre la guerre, mais sans adhérer à aucun groupe politique. Je n'avais jamais assisté à aucune réunion ni distribué le moindre tract.
Quartier latin, les flashs de la radio, la répression était violente. Il suffisait de franchir le pont Marie pour approcher de la Halle au Vin, la zone de tous les dangers. Lacrymos, grenades explosives. étudiant blessé mais malgré tout déterminé à rendre les coups. Victor ne pouvait s'empêcher de penser aux chaussures abandonnées dans les caniveaux de la rue de la Roquette en février 1962, aux morts du métro Charonne. Cette fois, quelque chose avait changé. Victor, du haut de ses 14 ans, n'était certes pas un fin politique. Il se souvenait pourtant des visites des camarades du parti chez ses parents, de leur souci de responsabilité, de respectabilité, ne pas faire de vagues, patience, tout viendra en temps voulu.
Thierry Jonquet.
Pendant quelque temps, l'épicentre de toute cette vie urbaine agitée a été la Sorbonne. On pouvait y trouver toutes sortes d'ambiances, des plus studieuses aux plus surchauffées, avec des prises de parole inattendues, passionnantes ou sectaires. Dans la cour, sur des présentoirs improvisés, s'étalaient les publications contestataires du moment. Durant quelques jours, tout Paris a fréquenté la Sorbonne, ne serait-ce que quelques heures par pure curiosité ou pour essayer de comprendre.
Antoine Stinko.
Pendant quelques jours, une moyenne s'établit. 15 à 20 viennent chaque soir à la réunion du comité étudiant-écrivain. Ce ne sont pas toujours les mêmes, à l'exception de 3 ou 4. Ceux-ci constituent le fond du comité d'action. À partir de leur incrustation concrète, au lieu convenu, à l'heure convenue, le comité se construit.
Marguerite Duras.
La visée poétique de mai se manifeste d'une manière éclatante avec l'atelier d'affiches des Beaux-Arts. Ce centre de sérigraphie, inventé et animé par des jeunes peintres et des étudiants de l'école, devient un des lieux stratégiques du mouvement des occupations à mesure que la grève dure et se radicalise. La révolution de la vie quotidienne, que les situationnistes appelaient de leurs vœux à la fin des années 50, est à l'ordre du jour.
Jean-Paul Dolé.
J'avais 13 ans en mai 68. Ni enfant, ni encore adolescent. Un drôle d'âge pour observer les événements qui allaient tout de même modeler les années de ma première jeunesse, modifier le cours de mon époque, bouleverser de fond en comble les valeurs de la société où j'avais grandi.
Olivier Assayas.
En 68, les mots ont manqué pour dire un autre monde possible. Cette absence de mots est compensée par l'inventivité des multiples affiches, papillons, sans oublier la musique. En particulier le free jazz, né par et pour la lutte des Afro-Américains, et le rock des débuts rebelles de la jeunesse anglaise et américaine.
Il y avait le récit de mon père de la Sorbonne occupée, celui de la confrontation entre étudiants et ouvriers à Renault, il y était, ou bien les numéros de l'enragé, ceux de l'éphémère quotidien Action que je dévorais. Progressivement, je me passionnais pour ce qui était en train de se passer, développant la conscience diffuse, non pas tant de la valeur historique des événements, mais de la profondeur jusqu'où résonnait la déflagration.
Il y eut des moments de grande étrangeté où tout le monde semblait détendu à la recherche de quelque chose. Souvent, des groupes se formaient et discutaient. Place de la Sorbonne, un monsieur, un bourgeois fantasque, avait même installé un télescope et invitait les passants à regarder le ciel dans sa lunette. À côté, une grand-mère, un prolo, un jeune étudiant et un fonctionnaire débattaient très sérieusement d'une réforme des horaires de la poste.
Antoine Stinko.
Nous sommes l'anticellule. Autour de nous, rien que nos pareils, les autres comités d'action. Pas d'ordre, pas de modèle proposé, pas de militants. Ou bien on refuse, ou bien on avale le poison. On s'opère, on rejoint. Ici, pas de discours magistral, pas de ligne. Ici, nous ne classons personne au départ. Ici, c'est le désordre. Faute de référence adéquate, procédons par analogie. Le comité a l'inconsistance du rêve. Il est frappant comme le rêve. Comme lui, il est quotidien.
Marguerite Duras.
Tout ce qui me semblait immuable dans le monde où je vivais, tout ce qui y relevait de l'autorité établie vis-à-vis de laquelle, surtout à cet âge, j'avais très peu de sympathie spontanée, était ébranlé, dévoilait une vulnérabilité, une capacité à pouvoir se déliter que je n'avais jusque-là pas pu imaginer.
et qui du coup ouvrait toutes sortes de perspectives inespérées. Maladroitement, et aussitôt désavoué par mon père, j'avais identifié ce que je ressentais de neuf, et me concernant en propre, comme l'élément libertaire de mai 68. Je confectionnais des drapeaux noirs que j'installais sur ma bicyclette, je graffitais des A cerclés quand je pouvais, où je pouvais.
Les flics ne vinrent jamais jusqu'à Charlemagne. L'occupation du lycée se déroula sans violence. Les profs erraient dans les couloirs, leurs sacoches à la main, désœuvrés, dépassés, désorientés, sans trop savoir quelle attitude adopter. Les amphis virent apparaître tout un arsenal de sacs de couchage, de couvertures. Le ravitaillement s'organisa, sandwichs, bouteilles d'eau, canettes de bière. Le temps était doux. Jusqu'aux dernières heures de l'après-midi, Victor traînait dans la cour. Lisait les affiches manuscrites, tracées au feutre et dégoulinantes de colle, qui tapissaient les murs, pliait soigneusement les tracts qu'on distribuait çà et là, les enfouissait dans les poches de sa veste, afin de les déchiffrer en toute sérénité une fois rentré à la maison. Les tracts regorgeaient de mots istes, maoïstes, trotskistes, anarchistes, bordiguistes, des sigles abscons, des noms accouchés dehors. Les bibliothécaires de la mairie du 11e arrondissement étaient en grève, inutile d'aller chercher des éclaircissements de ce côté-là. Il fallait faire fonctionner sa cervelle sans le secours des livres.
Thierry Jonquet.
Ce qui a vraiment compté pour nous, c'est la découverte de cette nouvelle manière de s'engager politiquement, hors des grandes organisations ou des groupuscules dissidents. Contrairement à eux, nos critiques n'étaient pas inspirées par la rigueur des doctrines, mais par de nouveaux instruments d'analyse issus de champs très divers, de la psychanalyse à la sémiologie, de la sociologie à l'écologie. Même fragmentaire, la compréhension de toutes ces approches nous fit croire qu'un monde nouveau tenant compte de la complexité de la vie des hommes était possible.
Antoine Stinko.
Lather was 30 years old today. They took away all of his toys. His mother sent newspaper clippings to him about his old friends who'd stopped being boys. There was Howard C. Green, just turned 33. His leather chair waits at the bank. And Sergeant Dow Jones, 27 years old, commanding his very own tank. But Lather still finds it a nice thing to do, to lie about nude in the sand, drawing pictures of mountains that look like bumps, and thrashing the air with his hands. But wait! Whole Lather's productive, you know, he produces the finest.
La foule, place de la République. 1 million de manifestants. Victor reste à 2 heures durant coincé, immobile, prisonnier du flot, devant les vitrines de la toile d'avion au coin de la rue Béranger, à regarder défiler les cortèges syndicaux et étudiants. La classe ouvrière, si chère aux camarades du parti croisés chez ses parents, était enfin entrée dans la danse.
Comme architectes, nous étions évidemment très sensibles aux possibilités extraordinaires de la technique et nous pensions, en toute innocence, qu'elle allait être un élément majeur de cette révolution qui devait libérer les hommes du joug d'un capitalisme encore représenté par de gros messieurs en smoking, gros cigares et chapeaux haute forme.
Et pourtant, à Charlemagne, à chaque fois qu'il montait à la tribune des meetings, les copains de la JC, les cadres, n'en finissaient pas d'appeler au calme, d'exhorter les lycéens à rentrer chez eux, à se disperser, à déserter le bahut pour ne pas sombrer dans l'aventurisme. Ils ne récoltaient que des sifflets, des injures. Qu'importe, ils s'obstinaient. Aventurisme. Ils n'avaient que ce mot à la bouche, les copains de la JC.
Les étudiants de Columbia s'étaient mis en grève et, pendant que nous tenions posément nos assemblées dans les locaux, le campus retentissait de clameurs sauvages qui ponctuait les bagarres sans merci entre partisans et opposants du blocage. Le 30 avril au soir, l'administration mit le holà et fit intervenir la police. Au cours des émeutes qui suivirent, au milieu de plus de 700 personnes, je finis par être interpellé, c'est-à-dire tabassé et traîné par les cheveux jusque dans un fourgon. Je ne regrette rien. J'étais fier d'avoir accompli ce que je croyais être mon devoir. J'étais fier et j'avais la rage. Le projet de gymnase fut abandonné, certes, mais le vrai enjeu était la guerre du Vietnam. Or, la guerre allait encore durer 7 terribles années.
Paul Auster.
Et voici une grande photo de cette foule immense, sur le fond blanc, gris ou vert des pierres et des arbres, qui se rassemble et piétine à Paris au début de l'après-midi, à la République et autour, jusqu'à la gare de l'Est, avec ses banderoles slogans « étudiants, enseignants, travailleurs, solidaires » et les milliers de solitaires, et tous les âges, hommes et femmes, garçons et filles, enfants.
Jean Thibaudeau.
Nuit des barricades, cocktail Molotov, charge de CRS, voiture calcinée rue Gay-Lussac, Victor était accro à son transistor. Il suivit heure par heure le déroulement des opérations jusqu'à l'aube. Un nouveau champ de bataille. Les généraux cette fois s'appelaient Gessmar, Cohn-Bendit, Sauvageau.
Barricade autour du Panthéon et de la Sorbonne. 22h05, par l'intermédiaire des radios qui, depuis le début, accompagnent ce qui se passe, le recteur de la Sorbonne se déclare prêt à recevoir les représentants des étudiants. Ceux-ci, par ces mêmes radios, demandent avant tout dialogue la libération et l'amnistie de tous leurs camarades emprisonnés.
Ce fut le mot d'ordre. Nous sommes tous des juifs allemands. Une dizaine d'enragés. On a fait vibrer, résonner de paroles, empli l'espace, occupé les coins de rue où tout le monde s'est mis à causer. Vous êtes tous concernés. Scandent les manifs devant les fenêtres des gens ravis.
Roland Castro.
Il y a maintenant plus de 60 barricades. Certaines dépassent les 2 mètres. Le journal Le Monde écrit « C'est une sorte d'exaltation laborieuse, presque minutieuse. Un enthousiasme communicatif, presque une joie. Des fenêtres, des riverains leur jettent de la nourriture. On leur apporte à boire. Une visible sympathie, malgré les déprédations de tous ordres, et surtout les voitures défoncées ou renversées, semble s'être installée entre les irréductibles des barricades et leurs spectateurs.
Les pavés de granit étaient petits, cubiques, et ceux qui, du fait de leur force et de leur ardeur, s'étaient promus balistes de première ligne, pouvaient les lancer haut et loin, les ayant bien en main. Ce n'étaient pas les énormes cubes de pierre des pavés du roi, comme on les trouve dans la cour de Versailles et en bien des endroits des vieilles villes. Je donne cette information pour ceux qui, n'ayant jamais vu ces petits pavés modernes des rues de Paris, trouvent incompréhensible qu'on n'ait jamais pu lancer à la main les pavés du XVIIe siècle, s'imaginant qu'il s'agissait d'eux. Les pavés gris reposaient sur un lit de sable qu'on découvrait alors, ce qui a bien fait rêver tant les rues éventrées prenaient une étrange allure, celle d'une marée montée jusque-là et qui a reflué, laissant tout dans un incroyable et séduisant désordre.
Henri-Alexis Batch.
C'est ma voiture, dit le mec rigolard de la rue Gay-Lussac qui la voit cramer sur une barricade, c'est-à-dire sur un trait tiré par les pavés entre le rêve et la réalité.
Roland Castro.
Ma mère écoutait des nuits durant les récits en direct des émeutes que diffusait son transistor pour nous en faire le lendemain, au petit déjeuner, des récits terrifiants qui me faisaient jubiler. On avait des pavés. On avait renversé des voitures. On y avait mis le feu. On avait essayé d'incendier la bourse, hélas sans succès. J'aurais voulu y être, y contribuer même modestement, au moins voir la rue Gay-Lussac dévastée. Je la situais d'autant mieux qu'elle se trouvait à la sortie de la station Luxembourg, terminus de la ligne de Sceaux, mon lien d'alors avec Paris.
Olivier Assayas.
Soudain, au milieu des fumées, des huées et des suffocations, toute résistance se disloqua. Le groupe dont j'étais se retrouva à courir et à voler. Oui, comme voler. Ce mouvement n'avait rien de connu de notre corps. Et voyant un peloton de CRS, matraque haute, remonter vers nous, notre bousculade éperdue de filles et de garçons, pour qui c'était l'épreuve du feu, s'est engouffrée sous un porche qui, par chance, s'était ouvert.
Nous avons grimpé les escaliers pour nous réfugier dans les étages supérieurs. Une telle échappée ne serait plus possible aujourd'hui. Trop de portes sont codées. Elles choisiraient leur camp d'entrée de jeu. Là-haut, un monsieur nous ouvrit, qui était facteur, je crois. Il nous accueillait d'autant plus volontiers, nous dit-il, qu'en 1936, pendant le Front populaire, cela ne faisait guère que 32 ans, une génération. En 36 et à la Libération, ces deux moments historiques où les travailleurs en usine, les mineurs, les dockers, les travailleurs manuels ou les petits employés avaient eu le sentiment d'être pris en compte. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un héritage directement transmis, qu'il s'agissait de la même histoire qui se poursuivait d'un âge à l'autre.
Henri-Alexis Batch.
Une émeute de grande envergure est un parfait objet fractal. S'il est possible de la résumer dans l'opposition binaire de deux camps s'affrontant, elle se divise en fait en une infinité de petites péninsules mobiles, de gestes isolés. Elle comprend des trous, des trêves inaperçues, des ratures, des sursauts, des poussées de groupes et des disséminations, des fuites et des chutes, des jets et des impacts.
Jean-Christophe Bailly.
Pour la petite histoire, je voudrais rappeler aux incrédules que les événements de mai 68 ont débuté à la faculté de Nanterre quand on a voulu interdire aux étudiants l'accès des résidences universitaires réservées aux étudiantes.
Didier Deninx.
Si ce jour n'était pas une route infinie, si ce soir n'était pas un sentier tortueux, si demain n'était pas un jour si lointain, alors solitaire ne voudrait rien dire à tes yeux. Oui, et seulement si ma bien-aimée attendait, si je pouvais entendre son cœur battre doucement, si elle était allongée là, à mes côtés, alors je pourrais me coucher à nouveau. Demain est si loin. Tomorrow is a long time.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner. Pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me.
C'était mai 68, quelques pas tout autour, par Hélène Bleskin. Deuxième émission. Avec les voix de Claude Aufort, Antonin Chalon, Guy Chapelier, Aymeric Le Serre, Johanna Nizar, Frédéric Pierrot, Nicolas Raca, Dominique Verrier et la voix d'Élodie Hubert. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Remerciements à Antoine Vuillouz de la Discothèque pour les recherches musicales. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Manon Houssin et Alice Seyed. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Réalisation, Juliette Eman. Toutes les références bibliographiques des textes sur notre site internet à la page du feuilleton.